Je vais suivre un petit peu les grandes lignes de l'exemplier. Donc on va commencer par le lieu d'horreur. Alors, la description du paysage pourrait avoir une origine judiciaire. L'argumentum a loco, c'est cette idée que finalement on justifie une action, ou profil de personnalité, comme on dirait aujourd'hui, par une origine qui est le lieu, hein, soit méfait en l'occurrence, soit au contraire, si c'est du côté de l'avocat, on va dire l'environnement favorable qui justement justifie ou invalide en tout cas les accusations. Je vais aller vite sur la première partie qui est un petit peu la genèse du paysage romantique pour ensuite donner quelques éléments que j'ai pu trouver au gré de mes lectures. Donc on va se trouver en face d'une polarisation en termes de paysage entre le lieu de plaisance, qui est assez bien défini, le locus amenus, et puis le locus horridus. Voilà. C'est très intéressant parce que le locus horridus, précisément, va être représenté comme un paysage anticulturel, puisque le locus amenus va s'imposer comme le lieu de plaisance, comme le paysage idéal, pour reprendre les termes de Corsius, pendant la plupart des siècles qui fondent la civilisation, qui iront jusqu'à la fameuse affiche, ça avait déjà été mis en valeur par Madame Cachin, la fameuse affiche de Mitterrand en 81. Donc, autant le lieu de plaisance donc, est un lieu paradisiaque, en fait, puisqu'on pense que le terme même jardin signifie au départ paradis, autant le second, le locus horridus, va être tout son contraire, le lieu polarisé et antinomique, et ça va être le lieu finalement infernal dans sa version métaphysique et le lieu terrible dans sa version sécularisée. C'est ce que vous avez dans la première citation, finalement, c'est la version sécularisée du paysage infernal, c'est le paysage des brigands, qui déjà commence avec Apulée dans les Métamorphoses, avec les enlèvements, etc., ce qu'on trouvera finalement 18 siècles plus tard aussi. Qu'est-ce qu'on trouve dans le locus horridus qu'on trouve ici, je n'oublie pas la citation, je vous y renvoie pour gagner un peu de temps. Eh bien, on trouve le schème de la verticalité. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver ensuite de façon très très prégnante dans les paysages pré-romantiques et romantiques. Horridus n'est pas simple à traduire, mais si vous regardez dans le Gaffio, vous trouverez quelque chose d'intéressant, c'est tout ce qui est hérissé. Voilà. Donc il y a cette idée de quelque chose de vertical, de perpendiculaire. Hérissé, c'est intéressant parce que ça va évoluer vers sauvage et vers horribilis, c'est-à-dire il dresse les cheveux sur la tête. Mais on n'a pas de terme véritable pour dire ça, parce que horrible, c'est quelque chose de psychologique, et puis finalement, hérissé, c'est quelque chose qui est concret. Donc ce lieu évolue au gré des textes, selon qui ce sont des textes métaphysiques ou des textes romanesques. Chez Sénèque, Sénèque est un précurseur, c'est vrai, du paysage shakespearien, si on veut, mais aussi un grand utilisateur des possibilités du paysage horrible, du locus horribilis cette fois-ci. C'est une petite digression avec cette idée très stoïcienne que finalement le pouvoir est lié à l'horreur. Donc le sage est celui qui se met en retrait. Le paysage d'horreur est finalement le palais. Enfin, le palais jouxte le paysage d'horreur. Il est en rapport direct avec les puissances infernales. Alors au Moyen-Âge, évidemment, c'est la grande période du locus amenus, c'est dans tous les romans de chevalerie, avec les délices sensorielles qui comblent la sensibilité humaine. On trouve une opposition cette fois-ci entre finalement ce qui est bâti, cultivé et donc habité, la ville, le château, le village, et ce qui ne l'est pas, le lieu d'horreur, c'est-à-dire la forêt, le désert humain. Avant que ce soit la mer, finalement, c'est la forêt qui va incarner ce lieu de la sauvagerie. Le Goff, Zumthor et puis Pastoureau qui disaient à peu près la même chose, c'est-à-dire que la forêt, c'est un lieu ambigu. C'est à la fois, on le sait, le lieu aussi où l'ermite va trouver Dieu, dans la sauvagerie, mais c'est aussi le lieu où il va subir la tentation, justement. La plupart des saints subissent la tentation dans la forêt. Et c'est le lieu de la marginalité absolue, c'est-à-dire qu'on y trouve tous les métiers en marge de la ville et tous ceux qui sont réprouvés ou bannis. Voilà. Mais, comme le dit Pastoureau, ce qu'on va garder de la forêt, c'est son imaginaire noir. La forêt est associée à la couleur noire, alors que la toponymie, finalement, d'après lui, rappelle plutôt des éléments de ressourcement. Donc on en reste, pour la forêt, à cet imaginaire noir. J'insiste pas, mais c'est vrai que Dante a une grande responsabilité dans cette imposition de cet imaginaire noir, parce que, vous savez, au début de l'enfer, la forêt est le lieu de la désorientation et de la perdition. À la Renaissance et pendant la période baroque, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que le lieu, le locus horridus, le lieu d'horreur, pour dire les choses un petit peu plus simplement, eh bien, continue d'être le lieu de l'antipastorat, de l'idylle inversée, et s'impose très vite comme un monde renversé, l'inverse, la version noire du paysage culturel de l'époque. On est pour l'instant dans une contre-culture, si je puis dire. On est dans un paysage qui est un paysage qui n'est pas valorisé par la culture. C'est un paysage sauvage. Alors tous les animaux ont un symbolisme qui est en rapport avec des forces du mal. J'en arrive très vite à un vol d'oiseau au XVIIIe siècle qui est une période charnière. Parce que le lieu d'horreur, en effet, reste le monde inversé de la norme, hein, l'espace marginal. Et on a pu en repérer à peu près les mêmes éléments, hein, l'obscurité, le silence, les bruits effrayants, la verticalité menaçante, la violence de l'eau courante, l'animalité hostile, etc. Ce lieu, au 18e, commence à évoluer. C'est un lieu qui va être associé très rapidement au mal, bien sûr, mais aussi au malheur. Sachant qu'en effet, peut-être le paysage suit finalement l'évolution même de la conception qu'on a de l'homme. C'est ça qui est assez étonnant. C'est que finalement, le mal étant de plus en plus perçu peut-être comme une conséquence du malheur, eh bien, ça va être aussi le lieu progressivement de la mélancolie, de la terreur, du mal, mais aussi de la mélancolie, du malheur. Par exemple, dans le discours préliminaire des saisons, Saint-Lambert dit qu'il faut, c'est un ouvrage poétique, assortir les tableaux, les épisodes au paysage, hein, c'est la fameuse théorie qui n'est pas spécialement romantique d'ailleurs, du paysage état d'âme. Et donc, il dit qu'il y a une analogie entre nos situations, les états de notre âme, et les sites, les phénomènes, les états de la nature. Alors, le paysage d'horreur sera en conformité avec le malheur, le mal et la maladie. Je cite, « Placer un malheureux dans un pays hérissé, hérissé de rochers, dans de sombres forêts auprès d'un torrent, etc., ces horreurs feront une impression qui se confondra dans celle de la pitié. » Alors, commence à y avoir une évolution intéressante, par rapport justement à ce pathétique, hein, jusque-là c'était quelque chose qui était en rapport avec la terreur, et qu'on va trouver progressivement dans l'ensemble des décors, on va dire, des romans du XVIIIe, si je prends par rapport au début, c'est-à-dire 1735 jusqu'à la fin du siècle, 1797, avec l'émergence d'un roman féminin qui est un roman noir, mais pas seulement le roman gothique, qui va utiliser énormément ces paysages, où on va avoir des choses très très ambiguës, ambivalentes plutôt d'ailleurs, c'est-à-dire que vous allez avoir un paysage mal, c'est celui du moine de Lewis par exemple qui hante ces lieux maléfiques, mais aussi un paysage qui va être pour l'héroïne en rapport avec Dieu, hein, finalement, qui va être un paysage, je vais y revenir tout à l'heure, qui va, par la contemplation, la sauver du sadisme ambiant et de la séquestration. Donc en fait, on voit dans ces romans féminins, très étonnamment, une espèce de laisser-aller vers le sadisme, hein, c'est vrai, mais d'un côté, l'héroïne est héroïne parce qu'elle a le sens de la contemplation de la nature et elle trouve dans ce paysage sauvage quelque chose qui la réconforte et vient des sévices et donc de façon très étonnante. Le Seleucus Rédus, pour reprendre ce que dit George Sand dans Mopra, parce que Mopra c'est un roman noir, hein, c'est celui qui finalement sert de cadre aux histoires, je cite, à faire presser les cheveux. Vous voyez toujours cette notion d'héritage. Le paysage patibulaire donc devient un lieu dramatique, hein, un espace tragique. La dissertation sur le jardinage d'Orient de William Chambers fait une typologie des paysages, et la typologie de ces paysages sont à 80% des paysages d'horreur. Très étonnamment, il y a, je crois, le paysage plaisant, et ensuite c'est le paysage funèbre, le paysage historique, le paysage tragique, et le paysage terrible. Alors, la véritable révolution se situe donc au 18e, quand précisément ce lieu d'horreur cesse d'être un paysage pathologique, puisque même la mélancolie, quand on parle de mélancolie, il faut toujours faire attention à de quel type de mélancolie on parle, puisque c'est pas la même. C'est au début du siècle où c'est une maladie, et à la fin du siècle où c'est au contraire l'expression de la supériorité de l'âme. On voit chez Senancour, par exemple, le fait que celui qui est mélancolique, on retrouve là la théorie d'Aristote, hein, sur le génie, et ou de Dürer, finalement, on retrouve la Renaissance aussi, c'est que celui qui souffre de la mélancolie, c'est celui qui, précisément, est tellement en contact avec l'infini, avec la beauté absolue, qu'il en souffre terriblement d'être enfermé dans ce monde civil, donc qui développe cette mélancolie. Ici, le paysage pathologique donc cesse, n'est plus réservé aux saints, aux brigands ou aux malades, hein, et devient le lieu et l'occasion d'un agrément paradoxal, celui de la belle horreur, de la beauté de la grande nature sauvage. Dans la maison de Chateaubriand, vous avez une description d'une gravure, enfin c'est une légende d'une gravure qui représente la partie du célèbre du jardin de Gérardin à Ermenonville. Et alors, vous voyez le terme de belle horreur qui apparaît, qui est un terme de la folklorèse, hein, finalement, tout à la fin du XVIIIe siècle. À ce moment-là, la terreur que produit le paysage d'horreur n'est plus considérée sous l'angle de la catharsis, hein, mais elle devient une émotion esthétique. Hein, vous voyez la belle horreur, il y a la beauté qui apparaît. La terreur, ça c'est Maurice Lévy dans sa thèse sur le roman gothique, hein, il dit « La terreur ne se comprend plus dans un contexte de purgation des passions, le terrible s'apprécie sur le seul plan esthétique. » Et ne se justifie pas autrement que par la force et la qualité de l'émotion qu'il suscite. Et c'est là qu'on en arrive précisément au sublime. Donc il devient une catégorie esthétique à part entière. toujours de Chambers, les tableaux du genre terrible. On a souvent dit que ça venait du jardin anglais, pas du tout, en fait, ça vient de ce qu'on appelle le jardin anglo-chinois. C'est un jardin plein d'opposition. Le lieu d'horreur survient dans le jardin, comme jardin, d'abord comme jardin antithétique. Les jardins anglo-chinois étaient des jardins où on passait une scène très riante à un précipice, à quelque chose de funèbre, d'horrible, etc. Et progressivement, il va devenir un jardin à part entière. Donc en fait, il a été intégré, voilà. Parce que les jardins anglo-chinois, ce sont les jardins du surprenant. Ce qui est intéressant, c'est que ce terme-là sera aussi utilisé pour gothique et aussi pour romantique au départ. Le jardin romantique sera le jardin surprenant, comme les émotions qu'on a dans un roman un peu picaresque, on va dire, ou dans les romans de Prévost, par exemple, où on passe d'une situation idyllique à quelque chose de terrible, enfin, ou d'une aide de pathétique. À partir de ce moment-là, vous voyez bien que les tableaux du genre terrible sont finalement, ni plus ni moins, que des jardins qui s'ouvrent totalement au paysage sauvage. C'est à ce moment-là que j'ai intitulé « La découverte de la grande nature », qui apparaît à ce moment-là, puisqu'elle a enfin un concept qui permet de l'appréhender comme un objet esthétique, c'est le terrible, et ensuite, pour que ces espaces effrayants deviennent des paysages, et non pas du pays, pour reprendre des concepts actuels, eh bien, il faut que ces lieux d'horreur deviennent des paysages sublimes. Le paysage d'horreur devient un paysage privilégié, parce qu'il est réinterprété, explicitement ou implicitement d'ailleurs, par le concept du sublime. Je reprends les termes d'Hugo, si le sublime est horrible, c'est surtout parce que, dorénavant, l'horrible est sublime. C'est-à-dire que fait partie d'une catégorie esthétique. La découverte de la nature sauvage, c'est en quelque sorte une espèce de tête à queue culturelle. Parce qu'au XVIIIe siècle, il va y avoir une rupture totale avec les conceptions qu'on avait du beau et de la belle nature jusque-là. Dans le système classique ou néoclassique de la belle nature n'est pas la nature. C'est-à-dire que la nature, vous voyez dans les paysages du Poussin, par exemple, elle est reconstituée, elle est idéalisée. Parce que précisément, on est encore dans un système de représentation de mimesis, on va dire, où l'invisible prime sur le visible, hein, sur le matériel, c'est-à-dire qu'en fait, la nature n'est pas ce qu'elle se montre être, elle est au contraire les lois qui doivent la structurer. Donc, l'informe ne peut pas être naturelle, c'est l'horreur, c'est l'indéfini. L'indéfini est quelque chose qui est absolument bannissable. Donc, le paysage étendu, immense, sans limite, circonscrite, fait partie du paysage d'horreur. Donc, la grande nature fait partie du paysage d'horreur. Ou du paysage terrible. Hein. On va parler de l'effroi, de la répulsion, donc de la mer, de la montagne. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur Saint-Évremond et sa conception du vaste, hein, de façon très intéressante, qui essaie d'attaquer justement, c'est un défenseur de Corneille, donc il attaque un petit peu les Raciniens, en faisant la critique en 1685 du terme vaste. C'est un document très intéressant pour nous rendre compte que l'évolution a déjà commencé à la fin du XVIIe, au moment même du classicisme, il y a déjà un contre-courant, on va dire, anti-classique. Et c'est vrai que le traité de Longin est traduit par Boileau en 1674. C'est un petit peu quelque chose qui est occulté, mais je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'homogénéité du classicisme en France, en tout cas à la fin des années 1680. C'est à ce moment-là que Poussin développe aussi ses conceptions du sublime, en parlant de je ne sais quoi, Fénelon aussi, bon, des choses qui sont pas spécialement classiques. Donc, l'esthétique au XVIIIe, par ailleurs, suit l'évolution scientifique, hein, puisque la destruction du cosmos et l'infinitisation de l'univers, hein, pour reprendre les termes d'Alexandre Poincaré, justifie pleinement ce goût pour la grande nature, puisqu'elle est finalement la nature en expansion. Donc la question du sublime est inscrite dans la querelle des anciens et des modernes, et elle a certainement contribué justement à cette évolution. Alors, je passe sur le domaine anglais qui est un petit peu en avance sur nous, puisque le gothique et le sublime renaissent, hein, au milieu du XVIIIe siècle en Angleterre. Et celui qui a le mieux vulgarisé, pour dire les choses sans péjoration, hein, en France, c'est Diderot, Diderot et Mercier. Il traduit aussi en 1761-62. Et puis, vous savez, dans ce fameux salon où il y a la promenade Vernet en 1767, et dans le poème sur la poésie dramatique, il fait finalement une transposition des théories de Burke qui venait de reprendre les conceptions du sublime à l'anglaise, c'est-à-dire la mode gothique, si vous voulez, privilégiant le terrible et l'horreur. C'est la nature sauvage qui devient finalement l'élément culturel valorisé, et c'est le jardin classique, on va dire à la française, devient quelque chose d'absolument brocardé. Nous avons ridiculisé finalement Versailles autant qu'on peut. Et donc, la critique du paradigme esthétique classique est cette fois-ci achevée, puisque le fait que le paradigme classique était fondé sur une rectification dans l'ordre de la représentation, rectifier la nature au nom de la nature, finalement, prendre l'unité de la nature, c'était non pas copier la nature, c'est-à-dire ses écarts, ses excès, ses monstruosités, hein, mais c'était essayer de retrouver une norme, c'est-à-dire une harmonie, une perception des rapports ordonnés, d'harmonie, de cosmos, finalement, de cosmétique. avec cette notion d'utilité et d'unité. C'est-à-dire qu'il faut que le paysage valorisé soit celui qui est utile à l'homme. Le lieu de plaisance, c'est tout de même celui où l'homme trouve de quoi manger, de quoi se nourrir. Donc les paysages d'horreur sublimes, on peut le dire maintenant, ne sont pas considérés comme naturels, mais monstrueux par la tradition classique et néoclassique. Il y a un très très beau livre d'Alain Corbin, qui m'a mis en poche, sur justement cette l'évolution du paysage marin, des territoires du vide, c'est un très très beau livre. Il montre très très bien comment la mer est quelque chose, c'est pas étonnant aujourd'hui, mais quelque chose qui est non seulement que l'on fuit, mais qui est répugnant, parce que ce sont des restes du déluge. Et donc il y a une répulsion religieuse, et ensuite une répulsion esthétique, les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas ça du tout beau, une plage déserte. Voilà. Il n'est pas question non plus de s'y baigner, bien entendu. Ça arrivera à la fin du 19e siècle avec un précurseur bien connu, c'est Byron. La mer et la montagne sont des paysages qui s'inversent au niveau de l'axiologie. Ils passent d'un lieu de répulsion à un lieu d'agrément esthétique pour des raisons de sensibilité et d'évolution de la sensibilité. Alors, à la fin du 18e, donc la mer et la montagne ont une hégémonie esthétique très importante et prennent la place de la campagne et de la plaine, qui étaient les paysages du 17e siècle. Si ces paysages deviennent valorisés, c'est précisément parce que, en même temps, il y a la redécouverte par la civilisation gothique et bien du sublime. Ce qui se passe au 18e siècle, c'est une revendication nationaliste qui va déboucher sur le mouvement romantique, qui relève finalement la querelle des anciens et modernes, qui veut que l'on cherche dans chacun des pays paysages nationaux, et qu'on arrête de construire ces paysages, ces jardins, comme le faisaient les Grecs ou les Latins. Donc, les Anglais retrouvent le paysage gothique, et gothique au sens où c'est un peu comme notre mot baroque, ça signifie farfelu, atroce, etc. Retrouvent le paysage gothique et ont besoin d'un nouveau concept esthétique pour les valoriser, ce sera le sublime, pour aller vite, le goût que l'on peut prendre à l'horreur. Le renversement donc est évident à la fin du 18e siècle, le paysage hérissé, le sauvage, est dorénavant qualifié de romantique, il devient le paysage de référence et la culture donc du pittoresque va y aider, puisque la qualité, comme le dit très justement Kant, il dit que ce que préparé par la culture ne nous montre plus ne paraîtra qu'effrayant à l'homme inculte. C'est-à-dire c'est très intéressant. L'homme cultivé, c'est celui qui dorénavant, et ça va être même l'outil discriminant, va prendre plaisir à la nature sauvage. C'est-à-dire qu'on a totalement inversé. Autant l'homme cultivé, jusque-là, c'est celui qui avait son jardin qui débouchait, on va dire, sur une pleine, une belle campagne, presque idéalisée. Autant maintenant, c'est le paysan qui a peur de la mer, qui a peur pour des raisons religieuses, qui a peur de la montagne. Saussure le premier raconte, en se moquant, toutes les superstitions savoyardes, les gardes de la montagne, etc., en s'en moquant, parce que l'homme cultivé, précisément, c'est celui qui est capable d'apprécier la sauvagerie. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le sublime dans l'histoire? Il y a un point qui permet de le définir, c'est que c'est une théorie de la force esthétique et non pas une théorie de la forme. Jusque-là, Aristote, en fait, il faut concevoir que Longin et Aristote sont en concurrence d'une certaine façon, même s'il y en a un qui a été surévalué par la culture et l'autre qui a été oublié, et retrouvé donc par Boileau finalement. Eh bien, autant donc l'harmonie, la forme du côté du créateur, Aristote se place dans sa poétique du côté du créateur. Comment faire, en étudiant notamment les tragiques de Sophocle, comment faire une belle œuvre? Avec l'esthétique, Longin, qui est le premier donc à avoir théorisé le sublime, lui se met du côté de celui qui reçoit, puisqu'en fait c'est un traité de rhétorique. Et qu'est-ce qu'il trouve du côté de celui qui reçoit? La force du discours. Et il dit, eh bien, il y a des discours qui ne sont pas très bien construits, les tenants de la politique aristotélicienne ont trouvé qu'ils n'étaient pas forcément très très bien construits, mais ils ont une force incroyable. Et parfois même, un terme peut être une expression qui peut avoir une force incroyable sur le récepteur. Donc c'est plutôt une théorie de la force. Et notamment, par exemple, ce que Boileau prend comme parangon du sublime, c'est la parole biblique, Fiat Lux. Et on peut pas dire que ce soit quelque chose qui est extraordinairement recherché en termes de... Mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, en plus, le verbe accompagne l'action. Ces deux théories sont opposées, l'un du côté du créateur, l'autre du côté du récepteur. Et le sublime, finalement, c'est cette idée que c'est la recherche du plus haut degré de force esthétique sur le récepteur. Donc, en fait, Longin, lui, étudie ces différentes façons, avec différentes figures de style. Et Burke, quand il reprend le concept de sublime pour justifier l'architecture, notamment gothique, et les forêts. Les forêts, puisque concevoir que l'Angleterre et l'Allemagne sont des pays de forêt, qui n'ont donc pas de paysage classique. Et donc, l'hérissement, la verticalité, c'est exactement la définition de ce paysage de forêt. Burke reprend cette théorie longinienne pour dire qu'est-ce qui donne le plus d'impression esthétique à quelqu'un qui reçoit un discours, une représentation artistique ou la contemplation de la nature, eh bien c'est l'horreur. C'est ce qui fait le plus sublime. Donc, c'est le sublime qui est le plus fort. Voilà, c'est vraiment une conception de l'esthétique en termes d'intensité, de performance. Je crois qu'on y est, on est encore toujours dans une dépendance du sublime en plongeant. Et donc dans cette performance, l'esthétique de performance finalement qui est le sublime, eh bien, c'est l'horreur qui prend le pas. Mais Burke, finalement, indique que le sublime n'est pas non plus le terrible. Le terrible ou la terreur est à l'origine du sublime, mais il faut une reconstruction esthétique, c'est-à-dire soit une distance concrète, soit une distance psychologique ou idéologique par rapport à l'horreur pour en faire un sentiment et y prendre plaisir, sinon on est paralysé par l'effroi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve donc à la fin du XVIIIe siècle? On trouve essentiellement le fait que le sublime assume tout ce qui était sombre, inquiétant, terrible et gothique et lui donne une valeur esthétique. Alors, on trouve quatre grands paysages, on va dire, du sublime du sublime de puissance, du sublime terrible. C'est le volcan, bien sûr, chez Sade, la nature est volcan, hein, mais on trouve aussi ça énormément dans les paysages picturaux, hein, pour dire les choses anglais. Et notamment, ce qui est très intéressant, là, c'est une toute petite digression, c'est que qu'est-ce qui va faire que le paysage industriel va devenir là aussi un paysage que l'on va pouvoir admirer? Eh bien, c'est précisément qu'il va ressembler au volcan. Si on regarde par exemple les paysages de Lauterbourg, et puis ensuite de ceux qui ont peint la Colebrook, par exemple, les mines de Colebrook, eh bien, on remarque que la dominante rouge est particulièrement prégnante, et on remarque que les paysages industriels, finalement, deviennent des paysages valorisés par le fait qu'ils prennent la relève, finalement, des paysages volcaniques. Donc après la cataracte, l'orage et bien sûr la tempête, là, voilà, pour l'orage, l'antécédent célèbre avec le déluge de Poussin. Alors, on en arrive maintenant au tournant du siècle, c'est-à-dire la fin du 18e et le romantisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce sublime sombre, qu'on peut qualifier de sombre pour reprendre le concept de Voltaire? Eh bien, c'est que ce soit un sublime essentiellement sensationnel, c'est-à-dire qu'il s'en tient à la sensation. Or, les romantiques, et c'est pour ça que le paysage romantique n'est pas le paysage sublime de la fin du 18e, ne s'en tiennent pas là. Ils cherchent plutôt le sens dans cette révélation, le sentiment du paysage, et non pas la stricte sensation. La première chose que les romantiques imposent à ce paysage d'horreur, de terreur, eh bien c'est qu'ils remettent au centre de l'expérience du sublime l'idéalisation. Ils reviennent à la première évidence du sublime, c'est que le sublime, il est dans l'esprit. Et que, d'une certaine façon, tout paysage peut devenir sublime. C'est évidemment très intéressant pour aujourd'hui où nos pauvres paysages sublimes ne le sont plus. Sur la mer et la montagne, on n'a plus beaucoup d'émotions à voir ce type de paysage de carte postale maintenant. Et donc, ce qui est très important, et ça c'est Kant et Schiller qui le transmettent aux romantiques, qui font cette transition entre, on va dire, ce qu'on appelait les sensualistes et les romantiques, eh bien c'est que, comme le dit Kant, le sublime est produit à l'occasion d'une présentation sensible. C'est-à-dire que l'objet naturel est en quelque sorte à l'origine, mais n'est pas la cause. La cause est vraiment idéale. J'ajoute, il ne peut être contenu en aucune forme sensible. Il ne peut être rencontré qu'en esprit. Donc on peut considérer que le passage du sensualisme à l'idéalisme est bien la mutation essentielle du romantisme dans les années 1790. Voilà. Alors, le romantisme va reprendre cette dimension idéale, et notamment, je m'appuie sur une citation intéressante de Muriel Gagnebin, justement, qui a analysé la laideur, qui dit notamment, donc il semblerait que la laideur ait toujours deux faces, une esthétique envoûtante et terrible, celle du 18e finalement, l'autre, métaphysique, attestant la grandeur humaine. Et en fait, les romantiques retrouvent totalement cette excellence de l'esprit humain qu'on trouve dans tout l'humanisme du 7e siècle, mais qu'on trouve aussi chez Longin. Il dit que le sublime, c'est très ancien, parce qu'on est capable d'imaginer des choses infinies, parce qu'on est capable d'imaginer le beau dans son absolu, et la création comme quelque chose d'absolument beau, eh bien, nous montre pour quelle destination nous sommes nés. Voilà. On retrouve la terme de destination qu'on trouve chez Kant. Donc, les romantiques, vous savez, retrouvent la dimension chrétienne, retrouvent donc le dualisme chrétien, retrouvent des éléments du déchirement christique, finalement, mais retrouvent aussi ce dualisme, et dans ce dualisme, il y a aussi une part idéale. Voilà. Sublime idéalisation, chez les idéologues ou les kantiens ou post-kantiens, le sublime devient absolument duel. Il y a deux mouvements. Premièrement, on compare notre force, et on se sent écrasé. Mais deuxièmement, finalement, par la force de notre volonté et de notre liberté d'esprit, eh bien, on est absolument supérieur à toute cette nature, finalement, qui nous écrase, mais qui ne nous anéantit pas en tant qu'objet pensant. On retrouve d'ailleurs, finalement, des réflexions pascaliennes. Madame de Staël reprend la même chose, mais avec un côté plus spiritualiste, finalement. Mais une étincelle du feu sacré dans notre sein triomphe de l'univers, etc. Donc vous voyez que le sublime devient quelque chose, un sentiment idéal, et non plus une stricte sensation. On ne peut pas dire que le sublime, finalement, c'est une transposition des théories masochistes sur le plan esthétique. C'est pas masochiste du tout le sublime, hein. Au contraire, hein, puisque c'est cet anéantissement probable qui provoque une espèce d'insurrection du moi, hein, idéal, et qui fait que, précisément, on surmonte cette douleur et qu'on va au-delà dans la création, par exemple, d'une œuvre d'art. Ensuite, j'ai repéré trois éléments intéressants dans la poétique romantique. C'est d'abord l'élévation, hein, la régénération et l'exaltation, et ces trois éléments, finalement, correspondent à trois paysages qui vont être valorisés. L'élévation, très logiquement, va être l'occasion de l'expérience de la montagne. Quand Julien Sorel monte, l'homme des panoramas, hein, quand il monte, hein, sur les montagnes au-dessus de Verrières, il se sent de plus en plus, finalement, détaché de tout ce que les humiliations, hein, qu'il peut subir. Je me rappelle ce début du roman, humilié par son père. Sur les hautes montagnes où l'air est alors vous avez presque des théories scientifiques, hein, est pur et subtil, on se sent plus de facilité dans la respiration, plus de légèreté dans le corps, plus de sérénité dans l'esprit, les plaisirs ils sont moins ardents, les passions plus modérées, c'est le lieu de l'élévation. Les méditations ils prennent je ne sais quel caractère grand et sublime, proportionné aux objets qui nous frappent, je ne sais quelle volupté tranquille qui n'a rien d'âcre et de sensuel. La sensation, on la met à distance. C'est le lieu d'une élection, hein, je lis encore cette citation donc, de Madame de Staël, et ici c'est Rousseau. Il semble qu'en s'élevant au-dessus du séjour des hommes, on y laisse tous les sentiments bas et terrestres, et qu'à mesure qu'on approche des régions éthérées, l'âme contracte quelque chose de leur inaltérable pureté. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir une nouvelle typologie finalement, et chez Stendhal c'est très amusant, si vous avez l'occasion de lire les voyages en France, hein, les mémoires d'un touriste, c'est très amusant parce que il est très libre dans ses remarques, un peu à l'emporte-pièce, et en gros il y a une nouvelle typologie romantique qui se fait, c'est que l'homme des plaines est nul. Voilà. C'est un être absolument nul. Les seuls qui sont intéressants, c'est ceux qui vivent en haut, hein, dans les montagnes, ou qui vivent au bord, c'est-à-dire au bord de la mer. Et Stendhal le dit très clairement, il dit « Ah bah là, au Havre, on voit bien, ah, je me sens mieux, les gens ont l'air beaucoup plus intelligents, parce que là, je viens des âges de plaine, voilà. C'est embourgeoisé par l'argent. Par le... » Alors que là, évidemment, devant la mer, Senancour lui-même, hein, parlait de la monotone nullité du paysage des plaines. Voyez, le renversement, cette fois-ci, est complet. À la fin du siècle, quand Hugo parle dans 93, il dit pourquoi le Vendéen n'est pas le Suisse. Pourquoi la révolte vendéenne a été misérable, sanglante, atroce, et pourquoi celle autour de Guillaume Tell, enfin depuis Guillaume Tell, a été sublime. Eh bien parce que les Suisses étaient en montagne, alors que les pauvres Vendéens, hein, étaient dans des landes et des marais, surtout. Alors là, le marais, c'est encore pire, finalement. Voilà. Donc une nouvelle typologie, une nouvelle axiologie du paysage, hein, Senancour, qui est admirable de ce point de vue-là, hein, qui est celui qui impose véritablement cette idée dont je parlais tout à l'heure, que l'homme sensible est forcément un homme mélancolique. Mais c'est mélancolique et n'est pas une dépression. Celui qui en a parlé le mieux, c'est Lamartine, à propos du sentiment océanique, il a dit « c'est une mélancolie héroïque ». Je crois qu'on pourrait définir ça, le romantique, c'est une mélancolie héroïque. Si on relit René, par exemple, on peut avoir une idée assez molle du personnage. Si vous le relisez, c'est quelque chose d'extrêmement énergique. C'est un personnage... à la fois très lacrymal, très larmoyant, etc., mais d'un côté extrêmement énergique, proche du suicide, proche d'une action très violente. Le paysage de la forêt primitive, la forêt finalement que va retrouver Chateaubriand en Amérique, et la forêt que trouvera Tocqueville aussi sur les pas de Chateaubriand dans un très beau récit de voyage, 15 jours dans le désert. Alors le désert, c'est le wilderness américain, c'est le terme qu'on emploie encore à l'époque pour désigner le lieu de la solitude, hein, et non pas le Sahara, qui va s'imposer à la fin du siècle. Hein. Eh bien, la régénération, c'est la forêt primitive. Tocqueville, dans son plagie son maître, verra aussi dans cette forêt, finalement, un retour au paradis. Retrouver la grandeur sauvage du désert américain, hein, comme Nouvel Éden. Hein. Tocqueville va traquer l'existence d'un couple de Français qui se sont pris pour Adam et Ève et qui sont allés, en effet, en pleine forêt américaine, qui n'ont manifestement pas survécu très longtemps. Alors, l'autre grand paysage de la forêt, sans voyager autant, qu'on peut trouver en France, même pas loin d'ici, c'est Fontainebleau. Fontainebleau, c'est le grand paysage qui naît, hein, et qui va prendre toute son ampleur avec l'école des Barbizons, mais qui déjà chez les romantiques quelque chose de très important. Je vous renvoie aux très belles pages de Flaubert en Éducation sentimentale, de Goncourt dans Manette Salomon. La forêt de Fontainebleau, on l'oublie souvent, c'est quelque chose qui a été amené aussi par Senancour au tout début du siècle, dans les années 1800. Le premier à avoir chanté les beautés de la forêt de Fontainebleau, qui est une forêt là encore assez méprisée, parce qu'elle est assez chaotique, avec ses rochers, avec des sables, voilà. C'est une forêt absolument... horrible au regard des canons classiques. La mer et l'océan infini sont, alors je ne renvoie pas sur ce qui deviendra un cliché, ce qui se retrouvera dans le dictionnaire de Flaubert, hein, c'est l'océan de points infinis. Ben oui, forcément, forcément infini. Alors je vous passe les images de l'immense océan, etc. Mais c'est cette idée que cette fois-ci, c'est plutôt l'exaltation, un peu comme dans le tableau de Courbet, ou même de Friedrich finalement. Hein. L'homme va au bord de la mer, et là aussi, il ne faut pas faire un contresens hein, sur ce qu'a voulu dire Friedrich, c'est que l'homme est petit, écrasé par la mer, mais il est là. Hegel, lui aussi, verse dans le romantisme le plus échevelé. Hegel essaie de montrer qu'un bourgeoisement ne touchera jamais ceux qui sont près de la mer parce qu'ils ont un dédain total de l'argent. J'ai essayé de définir quelles pouvaient être les deux grandes tendances du paysage romantique parce qu'il n'est pas un du paysage romantique, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'absolument indéfini. Il y a deux concepts qui me paraissent le caractériser, qui sont ici, hein, c'est la magnificence et la négativité. Alors ce sont deux concepts qui sont d'une certaine façon opposés. Le romantisme n'est pas un courant, on va dire, c'est pas un embrigadement, c'est une unité de problématique. En revanche, il n'y a pas unité dans les solutions littéraires ou artistiques qui sont données. Donc en effet, autant il y a une unité en termes de problématique sur l'indétermination, sur le sublime, autant il y a, il me semble, deux types de solutions par rapport au paysage romantique. J'avais utilisé une métaphore religieuse, là encore, c'est que d'une certaine façon, l'esprit d'opposition romantique, hein, c'est ça l'unité de problématique, c'est l'opposition en soi, au monde, eh bien, elle donne de grandes tendances presque antithétiques, c'est vrai, la subversion de la représentation, ou la réduction, la négation radicale de ce même principe de représentation. Voilà. Et en d'autres termes plus imagés, si vous voulez, on pourrait voir une tentation jésuitique dans cette magnificence, ou bien une privation jansénistique. Alors, la magnificence, par exemple, il y a deux grands écrivains de la magnificence, du paysage de magnificence sublime, c'est Stendhal et Georges Sand. C'est paradoxal, parce que Stendhal, on a souvent dit, il ne décrit pas, etc., mais il décrit bien plus qu'on ne dit, parce que simplement, il ne faut pas le juger avec les concepts balzaciens, par exemple. En gros, ces deux écrivains cherchent à faire une synthèse du sublime et du beau. C'est-à-dire que le paysage va essayer de conserver la force du sublime et la forme de la beauté. Et ça se comprend hein, dans leur histoire respective, Stendhal venant d'un milieu de néologue, donc très attaché au XVIIIe siècle, on va dire aux formes classiques, hein, néoclassiques en l'occurrence plutôt d'ailleurs. Georges Sand, elle, c'est pour des raisons éthiques et politiques. Cette idée que le paysage doit être humain, doit être vivant, enfin doit, on peut y vivre, qui doit déboucher sur l'éthique, et donc sur la politique, et donc sur l'unité hein, avec le peuple. Voilà. Un paysage, on va dire, pour tous, d'une certaine façon. Démocratisé. Alors, pour la magnificence, donc cette union du beau et du sublime, on le trouve de différentes façons, à l'occasion de paysages différents, notamment par exemple le paysage de ruines. Dans les ruines, la forme s'est dégradée, mais il reste encore cette force qui représente encore ces objets attaqués par le temps, mais qui finalement laisse d'une part place à la rêverie, et puis laisse aussi part à une certaine tendresse, hein, puisque Stendhal est très attaché par exemple à ce qu'il appelle le sublime du temps. L'autre élément important dans la ruine, c'est qu'il correspond finalement au héros romantique. Dans le très beau récit de voyage de Hugo, et notamment la lettre 18 à Heidelberg, c'est peut-être la plus belle lettre de son récit de voyage, et donc il lui dit « Rien n'est plus beau que ce qui est tombé ». Et on retrouve exactement une conception du héros romantique hein, qui vient de loin, qui vient finalement du Satan de Milton, hein, qu'on retrouve chez Lamartine. Hein. C'est cette horreur grandiose de la ruine qui est aussi, hein, à sa façon, magnifique. L'autre grand paysage de la magnificence, c'est bien sûr le paysage de la forêt, dont j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas insister, parce qu'il associe à la fois l'horreur sombre et la mort, hein, Tocqueville le dit très clairement, hein, que dans la forêt, la mort est à l'origine de la vie, et la vie est à l'origine de la mort. Et donc cette magnificence est à la fois l'occasion d'un agrément, hein, de cette vitalité, cette profusion de la nature de la forêt vierge, hein, de la forêt primitive, et aussi quelque chose d'étouffant, d'autant plus profus qu'il provient d'un humus terrible. Par exemple, quand Hugo se rend à Sedan, il se rend compte que finalement, il voit une plaine magnifique, hein, il apprend que c'est Waterloo, un jardin magnifique, et il apprend que c'est un jardin où on a exécuté un régiment entier. C'est l'horreur quand il apprend ça, le paysage s'inverse, parce qu'il se rend compte que cette beauté est à l'origine d'un, je crois que j'utilise le terme de fumier. Donc il y a quelque chose ici, dans cette magnificence, là encore, qui a trait avec l'horreur, qui lui donne justement quelque chose de sublime et pas tout simplement. Je passe à Georges Sand. Georges Sand, c'est très intéressant ces paysages. Dans L'Homme de Neige, qui vient de reparaître chez Actes Sud, collection Babel, il a créé un personnage, Cristano, qui est à la fois italien et suédois. C'est un marionnettiste. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il synthétise lui-même le tempérament du Midi et le tempérament du Nord, le paysage de l'Italie. Voilà. Et il fait donc une parfaite synthèse des deux. puisqu'en gros, il nous explique, oui, c'est vrai que les lacs et les sous-bois sont immenses, alors que les lacs italiens ne le sont pas, mais que, et elle a tout à fait raison, en termes de stricte obédience esthétique du sublime, c'est que c'est pas dans la dimension qu'elle subit, mais dans la représentation idéale qu'on peut s'en faire. Et donc, il suffit de donner l'idée, ce que Burke appelle l'infini artificiel, l'idée de quelque chose d'infini pour qu'il y ait sublime. Pas nécessairement quelque chose d'infini. Même chose à propos de Gargilès, quand elle dit c'est une petite Suisse, etc. Elle essaie de justifier le paysage, alors elle est très intéressante parce que, Georges Sand, parce que, à mon avis, elle est même très très importante en termes de définition du paysage français. Qu'est-ce que c'est quand on parle de la France, du paysage français? Eh bien, je pense qu'il faudrait revenir à ces concepts et synthétiques. Elle trouve que le paysage français, et il a tous les romantiques qui sont d'accord, c'est un paysage qui est idéal parce qu'il réconcilie à la fois le nord et le midi, à la fois le sublime et le beau. Parce que vous savez qu'on coupe l'Europe en deux avec, depuis Madame de Sales, littérature du nord et sensibilité du nord et du sud. La France, on modèle le confirmant, l'identité de la France, et bien c'est vrai que c'est une transition. Quand on prend les autoroutes d'ailleurs, ça reste un isme encore aujourd'hui autoroutier très très fort, commercial. Mais c'est aussi un pays de synthèse entre les deux. Et donc elle, non seulement elle trouve que la France est un pays de synthèse, mais elle va trouver que le centre de la France synthétise admirablement tous les paysages qu'on peut avoir. Et donc en fait c'est l'écrivain qui va remettre au bout du jour un paysage totalement oublié, qui est le paysage, on va dire, du centre de la France, mais qui va s'imposer, hein. J'ai envoyé la fiche électorale, le paysage français avec son clocher, sa plaine, etc. Ce qui est très intéressant dans les paysages sandiens, c'est qu'elle cherche à avoir en effet un paysage qui donne accès au métaphysique, à l'infini, mais qui permette un plaisir, qui permette un travail éthique, enfin, quelque chose qui est en rapport avec la morale, un paysage même qui ne soit pas inhumain. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose de très profond chez Sand. Le beau paysage, c'est celui dans lequel on peut vivre. Cette association donc du sublime et du beau, je passe pour Sand parce qu'elle invente un concept qui est le concept de jardin naturel. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont une clôture, et d'un côté, ils ont une ouverture vers l'infini. Mais ils sont extrêmement clos pour qu'on puisse y vivre sans se protéger du reste. Voilà. Et je passe au paysage donc de la négativité, qui est à peu près tout l'inverse. Alors, Chateaubriand a également excellé dans les deux types de paysages, et d'ailleurs parfois presque au même endroit, et bien parce que le paysage de la négativité reprend des éléments du sublime, hein, puisque Burke définit le sublime comme privation. Privation de la présence, la vacuité, de lumière, l'obscurité, des hommes, la solitude, et du bruit, le silence. Voilà. Chateaubriand, dans le génie du christianisme, les reprend. Il parle d'objets négatifs. Les images favorites des poètes enclins à la rêverie sont presque toujours empruntées d'objets négatifs, tels que le silence des nuits, l'ombre des bois, la solitude des montagnes, la paix des tombeaux, qui ne sont que l'absence de bruit, de la lumière, des hommes et des inquiétudes de la vie. Alors, ce qui est très intéressant chez Chateaubriand, c'est que construit son infini, un peu le paradoxe de Zénon, en coupant son infini. C'est-à-dire qu'il fait un système de tiroirs successifs, mais ces tiroirs sont vides. Donc, il donne cette impression d'un étagement, donc de quelque chose de clos. Mais en fait, chaque tiroir de son paysage, finalement, est non seulement vide, mais en plus, s'évacue vers l'infini. Donc c'est vrai que, très curieusement, les paysages Chateaubriand sont faits avec du rien. Si on regarde sa conception même du paysage, hein, par exemple, quand il contemple la mer, il valorise ce qui est de l'ordre de sa disparition. La mer me paraît plus belle lorsqu'elle me permet d'errer sur ses grèves abandonnées et qu'elle se retire à l'horizon avec le soleil couchant. Voilà. Donc cette mer qui se retire, je trouve ça c'est parfaitement emblématique de sa conception du paysage. Madame de Staël lui dit la même chose, hein, l'étendue fait tout disparaître, excepté l'étendue même qui poursuit l'imagination comme de certaines idées métaphysiques dont la pensée ne peut se débarrasser quand elle est une fois saisie. Et alors, il y a deux types de paysages négatifs très intéressants chez les romantiques. C'est la lande, le paysage de lande, de Balzac, de Gustave Armé d'Orvilly, hein, la lande de l'essai, la lande de Gustave Armé d'Orvilly, et puis la steppe, voilà. La steppe, notamment, qui vont voyager en Russie, on pense à Madame de Staël, Gautier, etc. Ou Custine, qui a fait un très très beau livre, vous savez, en Russie en 1839, dans le plus beau récit de voyage en Russie, très honnêtement, bien supérieur à celui de Gautier, par exemple. Voilà, alors sur les steppes. Et alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que, et j'en viens alors au dernier élément du paysage romantique, c'est que, qu'est-ce qu'on trouve dans ce paysage romantique, c'est finalement, qu'est-ce qui fait sa définition, c'est son goût pour l'indétermination. C'est-à-dire que ce que déjà Gustave Lançon avait vu quand il avait étudié la prose de Chateaubriand avec ses fameux cimes indéterminées des forêts, c'est que, qu'est-ce qui plaît au romantique? C'est que précisément le paysage ne soit pas défini. Un beau paysage, c'est un paysage dans lequel on peut rêver, un paysage qui fait rêver. C'est pour ça que chez les romantiques, on trouve énormément de paysages nocturnes, où on ne voit plus rien. Paysage de Hugo, où on ne voit rien. Il attend la nuit pour décrire. Gautier à Venise, il décrit Venise de nuit. La rêverie qui... Voilà. De la même façon, du visage qui est intéressant dans Stendhal sont ceux justement dans lesquels il peut rêver. Hein. L'esprit a de l'espace libre pour la rêverie, alors le paysage est valorisé. Du coup, le paysage disparaît au profit de la description. Et il faut même que le paysage disparaisse pour qu'il y ait goût pour le paysage. C'est vraiment le paradoxe du romantisme hein, avec le paysage. Finalement, il n'y a pas chez les romantiques à proprement parler de description, hein, ce sont plutôt des rêveries. Stendhal le dit magnifiquement à propos de Madame Radcliffe, justement. Anne Radcliffe, qui est donc la fameuse romancière anglaise, un livre. Il dit « J'ai remarqué que les belles descriptions de Madame Radcliffe ne décrivent rien. » J'ai l'impression qu'il parle des siennes. Hein. Mais c'est souvent le cas quand un écrivain parle d'un autre écrivain. Hein. « C'est le chant d'un matelot qui fait rêver. » il dit. Voilà. Et à un autre moment, il dit quelque chose de magnifique. Il dit « J'aime les beaux paysages. Ils font quelquefois sur mon âme le même effet qu'un archet bien manié sur un violon sonore. Ils créent des sensations folles. Ils augmentent ma joie et rendent le malheur plus supportable. » Vous voyez, le paysage chez Stendhal n'est pas relié à une positivité quelconque. Il est relié à un sentiment, tout simplement, à quelque chose qui serait ce que Burke a appelé une esquisse inachevée. Le paysage romantique doit s'apparenter à une esquisse inachevée pour que l'esprit ait de la place pour rêver. On conçoit le fonctionnement du sublime dans ce cas-là, c'est-à-dire que le paysage est le lieu de l'accablement et la rêverie est le lieu où l'individu reprend ses droits et finalement, d'une certaine façon, reprend ses droits, détruit le paysage. Voilà. À partir de cette indétermination, de cette survalorisation de l'indétermination dans le paysage chez les romantiques est transfiguré, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a pas affaire à une apparence, mais à une apparition. Et ça, c'est typiquement ce que vous pouvez trouver chez Stendhal. À certains moments, je me souviens d'un paysage donc près d'Auray, il raconte dans les mémoires d'un touriste, il passe à Auray de nuit, et puis ça ne lui fait rien. Le paysage ne lui fait absolument aucun effet. Et puis, d'un seul coup, il se souvient de Walter Scott, et le paysage se transfigure. Il le dit, hein, ce paysage était triste, il a été magnifique. Finalement, heureusement qu'il était si triste, il aurait été moins beau s'il avait été moins triste. C'est vraiment cette idée que le paysage est l'occasion, une apparition, hein, c'est pas du tout de l'ordre de l'apparence, et c'est surtout, donc là encore, quelque chose qui doit nous interpeller aujourd'hui à propos du paysage finalement, c'est que il est l'œuvre du sentiment. Il n'est pas du tout l'œuvre de la nature, en quelque sorte. Et voilà, et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'en effet, dans la dernière poétique romantique du sublime, en ce qui concerne le paysage, c'est aussi le fait qu'on va trouver des perspectives qui accentuent le débordement, c'est ce que j'appelle la subversion de la représentation, c'est-à-dire qu'on va trouver des débordements du cadre. Alors on va trouver par exemple la fenêtre, la fameuse fenêtre qui cadre le paysage. Eh bien, notamment chez Michelet, par exemple, on va trouver, ou chez Gautier, cette idée qu'on regarde un paysage par la fenêtre et que le paysage, finalement, fait exploser les cadres de la fenêtre. Et la deuxième chose, c'est la désorientation que l'on trouve dans les panoramas. Le goût de la romantique pour les panoramas, pourquoi ? Bien parce que le paysage devient fou, il n'y a plus de repères, etc. Jusqu'aux panoramas stendhaliens, qui sont des faux panoramas, vous voyez, notamment la Chartreuse de Parme. C'est surtout cette idée-là, hein, le paysage romantique serait, avec l'œuvre du sublime, à la fois magnificence et à la fois négativité, ayant comme fondement une profonde indétermination, un goût pour l'indétermination. Merci.